France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, Jean-Claude nous appelle de la Drôme. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Je souhaitais demander à Monsieur Madelin s'il comptait pousser sa fibre sociale jusqu'à demander la mise en place du revenu inconditionnel de base ou salaire citoyen, enfin, etc.
Ou revenu universel.
Voilà, revenu universel.
Merci Jean-Claude. Alain Madelin.
Ouais, j'ai poussé moi-même dans le débat politique, il y a longtemps, j'avais même mis à mon programme présidentiel, l'idée d'un revenu minimum garanti. Je pense que c'est une bonne solution, surtout dans la période que nous vivons, de savoir que quoi qu'il arrive, on a un filet. Et un filet de garantie, les minimums sociaux. Et puis, si l'on reprend une activité, fût-ce à temps partiel, on ne passe pas du tout au rien. Parce que si vous passez, vous reprenez une activité de quelques heures par semaine, si on supprime vos aides sociales, bien évidemment, à ce moment-là, le revenu que vous tirez de votre travail, il n'est en réalité que de quelques euros par heure. Donc, ça crée ce qu'on appelle une trappe à pauvreté. Alors, tout ça, on s'en est aperçu. Hein, c'était le débat des années, il y avait 10 ans ou 20 ans, ou plus encore, on s'en est aperçu. On a fait le RSA et les socialistes ont fait la prime pour l'activité, qui est au fond un revenu minimum garanti, on peut l'améliorer, avec et qui marche bien, hein, depuis janvier 2016. Avec, si l'on reprend une activité, une allocation supplémentaire dégressive.
Mais c'est un mystère cette proposition. Comment expliquer qu'elle soit défendue par des libéraux comme vous et en même temps par des personnalités de la gauche radicale ou des économistes hétérodoxes ?
Non, alors ça c'est la bonne proposition. Ensuite, vous avez une deuxième impôt négatif qui existe déjà, c'est, pardonnez-moi de faire de la technique, mais qui existe déjà, c'est toutes les subventions que l'on fait, les exonérations de charges sociales sur les bas salaires, et de commencer par le SMIC, ce qui est une autre forme d'impôt négatif. Et sans doute, y a-t-il lieu de reprendre les deux ensemble pour faire un vrai filet de sécurité. Puis vous avez une autre idée, c'est celle dont semble-t-il parle notre auditeur. C'est l'idée d'un revenu universel citoyen garanti à tout le monde sans condition. Sans condition, dites donc, ça signifie que j'ai le droit de... C'est mieux que le partage du travail, ça. C'est le partage du non-travail. Même si j'ai décidé volontairement
j'ai le droit de
ne pas travailler, oui. J'ai eu une allocation.
Oui, ça vous plaît pas, ça.
Ça ne me plaît pas, parce que, d'abord, premièrement, ça signifie que si vous faites la même enveloppe sociale, puisque généralement, les gens disent on va faire la même enveloppe sociale, ça signifie que si vous donnez de l'argent à des gens qui décident volontairement de ne pas travailler, vous allez donner moins aux pauvres. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pauvreté. C'est la lutte contre la pauvreté. Et la lutte contre la pauvreté, elle ne se résume pas à des questions monétaires. La gamine qui est droguée, le type qui galère dans sa voiture avec ses enfants, celui qui n'a pas de domicile, ce sont que des situations qui sont beaucoup plus complexes à appréhender, et l'idée que le revenu universel comme ça serait la solution pour tous, c'est une blague. C'est une plaisanterie pour ceux qui travaillent réellement sur la pauvreté. Et au surplus, moi je suis vraiment solidaire, généreux, j'ai aucun problème avec ça, et justement, je trouve que le gouvernement est profondément antisocial de cette question-là. Vous n'avez vu aucune priorité sur la pauvreté. Vous n'avez eu aucun discours empathique sur la France qui souffre, qui galère, sur la précarité. Rien de cela part de ce gouvernement. Donc je suis plus social que l'actuel gouvernement. Simplement, ce que je dis, c'est que ma générosité, je veux la réserver à ceux qui souffrent, et que celui qui fait un choix de vie, certes sympathique, qui décide de vivre tranquillement chez lui avec un petit revenu d'existence minimum pour se consacrer à des activités peut-être associatives, à remplir Wikipédia, etc. Des activités éminemment sympathiques, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais je n'ai pas à le payer, si vous voulez. Il y a besoin d'un consentement à l'impôt. Et que ça créerait des effets pervers abominables. Et je m'étonne de voir, je termine d'un mot, beaucoup de gens qui sont dans le secteur du numérique se disent, au fond, avec le numérique, nos Uber, etc., si l'on refilait la facture de la protection sociale à l'État, si l'on transformait tous ces nouveaux travailleurs du numérique en des sortes d'intermittents du spectacle numérique payés par l'État. Regardez derrière beaucoup de discours, vous trouverez cette idée-là. Non, les travailleurs du numérique doivent avoir une protection sociale qui est payée par les acteurs du numérique.
Donc, principe de solidarité qui doit être maintenu selon vous. Richard nous appelle de Grenoble. Bonjour Richard.
Oui, bonjour. Voilà, en fait, ma question est très simple. Dans ses propos liminaires, Monsieur Madelin prétend effectivement qu'il faut investir le capital dans l'entreprise. Bravo. Bon, ce sont des propos performatifs, sachant que par ailleurs, en fait, on a appris que les plus gros spéculateurs aujourd'hui gagnaient plus de 56 fois le salaire de Monsieur Carlos Ghosn. Est-ce que vous voudriez bien nous expliquer clairement comment vous allez faire en sorte que le capital soit investi dans l'entreprise plutôt effectivement que dans la spéculation boursière? Je vous remercie.
Merci Richard. Alain Madelin.
On a besoin massivement de recapitaliser la France. Recapitaliser la formation des gens et une recapitalisation des entreprises pour préparer les nouveaux progrès. Les précédents gouvernements sous l'ancien quinquennat ont fait des erreurs monumentales sur le plan intellectuel avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la théorie économique, mais qui est un slogan qu'on a appliqué. Il faut taxer les revenus du capital comme les revenus du travail. C'est absurde. D'abord, c'est faux, puisque les revenus du capital sont déjà plus taxés que les revenus du travail. Je pourrais démontrer pourquoi. Et au surplus, dans l'intérêt des salariés, le capital n'est pas l'ennemi du travail. C'est une forte dose de capital dans un pays ou dans une entreprise qui fait les bons salaires.
Ça dépend où il est affecté, Alain Madelin. C'est ce que dit notre auditeur. La financiarisation de l'économie, c'est une réalité.
La spéculation aussi.
La spéculation, oui. Pardon de vous accabler, mais...
Non, vous ne m'accablez pas, mais ça demandera un peu de temps. L'argent qui est dans les circuits économiques, à l'arrivée, il aboutit toujours dans une activité économique quelle qu'elle est. Si à un moment donné, il y a une part qui est immobilisée, dite dans ce que vous appelez la spéculation, elle a un rôle économique. La spéculation est un réducteur d'incertitude. La spéculation, elle a été inventée par les marchés à terme à Chicago il y a très très longtemps, etc., pour protéger les agriculteurs des aléas, des intempéries, et c'est une forme d'assurance. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, pour faire simple, néanmoins, et répondre à votre auditeur, il faut que l'argent aille dans les entreprises et que le capital qui est affecté à la production, proprement dite, puisse être largement détaxé. C'est M. Gallois, je crois, qui a dit « nous devrions le traiter comme une œuvre d'art ». À l'intérieur de l'ISF, je rappelle que les œuvres d'art ne sont pas imposées à l'ISF. L'investissement productif dans l'entreprise, c'est-à-dire celui qui crée de l'emploi, de la richesse, du pouvoir d'achat, devrait pour le moins être traité de la même façon.
Les réseaux sociaux, Hélène Roussel.
Autant vous le dire tout de suite, votre discours inspire Twitter. Ah, le libéralisme, c'est plus que c'était. Alain Madelin contre le recul de l'âge de la retraite et la baisse des indemnités chômage. La CGT est partout, ironisera Bruy. Madelin qui donne une leçon de sociale au PS, pincez-moi. Moi, quelques précisions demandées aussi. Je ne comprends pas. C'est quoi mettre de l'efficacité dans la fonction publique, vous demande cet internaute.
L'efficacité dans la fonction publique, on avait un exemple tout à l'heure qui était formidable, qui était celui de l'école. Il y a plein d'enseignants qui sont innovants, qui sont capables de faire mieux, pour peu qu'on les affranchisse d'un certain nombre de tutelles. Donc l'autonomie des établissements scolaires, c'est de l'efficacité, je vous assure. Et dans tous les domaines, il faut pas aborder les questions en termes budgétaires, il faut couper dans la dépense publique, il faut les aborder en termes de quelles sont les réformes qui me permettent de rendre le même service à un meilleur coût. Alors ça peut être l'externalisation, ça peut être la transformation d'une agence, ça peut être par les fonctionnaires eux-mêmes l'idée de transformer leur service. Il n'y a pas de statut de start-up, par exemple, à l'intérieur de la fonction publique. Pour des fonctionnaires innovants. Donc vous voyez, il y a une marge de manœuvre considérable à l'intérieur de la fonction publique, à condition qu'on aborde ça sous l'approche de l'efficacité et non pas sous le terme de la coupe. Quant au social, l'âge de la retraite, pourquoi l'aborder de façon un peu provocante par 64, 65, 66 ans, 67 ans? Vous avez une solution qui est une solution d'inspiration libérale, mais qui est depuis des années, qui commence à faire un consensus, y compris à la CFDT, beaucoup d'économistes de gauche, etc., qui consiste à dire, bon, en matière d'âge de la retraite, on va mettre de l'ordre. Premièrement, on ne dépense pas plus en distribution de retraite que d'argent qu'il n'y en a dans les caisses. Principe d'équilibre. Deuxième principe de justice, à cotisation égale, retraite égale. le mécanisme de décote, de surcote, non, c'est proportionnel. Si je veux prendre ma retraite plus tôt, j'apprends plus tôt. Si je veux la prendre plus tard, j'apprends plus tard. Et donc, j'ai, à partir de ce moment-là, la possibilité de retraite à la carte. Tout le monde ne prend pas sa retraite au même âge. Et enfin, je permets pour ceux qui le veulent de le compléter par des fonds de pension. Et les fonds de pension sont une réponse à la question qui était posée précédemment, c'est-à-dire que c'est vrai que on va rentrer dans une formidable période de progrès, un peu comme au début du 19e siècle. Et vous allez avoir des capitalistes, vous le voyez déjà, des capitalistes qui s'enrichissent. Vous avez une sorte de caste capitaliste un petit peu hors sol qui est en train de se constituer. Et donc, ces si vous voulez, au plutôt que d'imposer le capital, mieux vaut le partager. Et le fonds de pension, ouvert aux Français, à tous les Français, c'est une forme de partage du capital.
On va accueillir Augustin Trapenard dans un instant et retrouver Vincent Dedienne.